galère.
88.4.
Ladies and gentlemen, you are about to witness some scenes from the next attraction to play this theater. This picture, truly one of the most unusual ever filmed, contains scenes which under no circumstances should be viewed by anyone with a heart condition or anyone who is easily upset.
Oh yeah, it's good stuff.
That depends, Boom Boom, on what you got in mind.
Kirby, get fucked!
Hey yo 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 yo, Nico Micro, j'espère que vous allez bien les amis. Il est midi 31 et 15 secondes. Vous écoutez Bande Originale Organisée, l'émission ciné qui inonde, qui dévergonde les ondes de Radio Galère. Entre midi 30 et 13h30, certains mardis du mois, B2O part à la rencontre d'un film, d'une série, d'une filmographie comme point de départ d'une histoire plus large. Une histoire dont nous écoutons les images, une histoire que nous regardons en musique pour mieux la déplier comme un origami cinéphile et radiogénique. Et aujourd'hui, une émission que je suis très très fier de vous proposer. C'est au triple galop que nous embarquons pour l'Italie, les amis, à la découverte, à la redécouverte des savoureux westerns italiens réalisés dans les années 60, mais en faisant vivre ces westerns à travers les morceaux de celles et ceux qui ont fait revivre ces frénétiques héritages par-delà les frontières et les âges. Et pour cela, j'ai le très grand honneur d'accueillir un invité de prestige dans le studio de Radio Galère.
Bonjour, bonjour.
Je suis très très fier, Loïc, bienvenue.
Merci.
Alors, tu es un DJ émérite des Nuits Marseillaises. Nos auditeuristes ont pu t'écouter récemment à l'étage du restaurant Tripletta, où tu as mixé il y a quelques semaines. Moi, c'est dans un sombre bar de Noailles, dont on ne se souvient même plus du nom, que je t'ai vu mixer.
Okaloum.
Le quoi tu dis?
Okaloum.
Okaloum. Alors c'est voilà. C'était le semestre dernier. Mais Loïc, tu es surtout propriétaire et gérant du merveilleux Vinyl Shop Bazar Musique au 5 Boulevard Chave.
C'est ça.
Et juste derrière la plaine, donc, un Vinyl Shop à la Selecta suave et raffinée, dont nous avons d'ailleurs fêté les 2 ans il y a quelques semaines.
Exactement.
Joyeux anniversaire Bazar Musique.
Merci, merci.
Et enfin, Loïc, en bon synesthète, tu as les yeux aussi aiguisés que les oreilles et tu es notamment un très fin connaisseur de Sergio Leone.
Très bien, qu'est-ce que je dois acquiescer.
Non mais j'espère que tu nous parleras de Sergio Leone plus en détail plus tard. Mais aujourd'hui, tu es donc venu raconter un genre cinématographique avec un genre cinématographique qui sent bon la poudre et l'alcool frelaté et tu nous as choisi quelques morceaux.
Oui, alors j'ai pris des morceaux qui sont des reprises, la plupart directes, indirectes, de musique de films de western italien, de western Sergio Leone notamment. Je pense que ça va s'entendre. Il y a des trucs de presque tous les continents,
oui.
C'est pas mal, on s'est bien creusé la tête. Il nous manque l'Amérique du Sud et l'Océanie, mais on a de l'Africain, de l'Asie, des États-Unis, des Anglais, voilà, qui ont repris. Des musiques de pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, le bon, la beauté, le truand. Je crois que j'en oublie un petit peu, mais voilà l'idée.
Ouais, donc c'est quasi exclusivement des morceaux des New Morricone qui sont repris par des groupes du monde entier. Mais on va s'écouter tout de suite un premier morceau.
Et oui, c'est les Upsetters avec Lee Perry, pas loin.
Non, je crois que c'était John Zorn qu'on avait prévu de mettre d'abord.
Oui, pardon.
Ah, ça, les Upsetters, c'est pour plus tard, spoiler alert. On écoute tout de suite. The Big Gun Down.
Avec un titre d'un autre western de Solima.
De Solima, tout à fait. Allez, on se lance. John Zorn, tout de suite. The Big Gun Down. Vous écoutez Bande Originale Organisée. Et ce soir, on part en Italie.
We'll be right back.
cheiro meio ruim, eu tava pensando alguma coisa e fedeu, acho que...
Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava tão entupido.
Gostoso!
Greta Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Jorjão!
Vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso tá bom.
Não, nem a cerveja que eu não sei. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
Agora um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mal.
Tá pegada, Duduca!
Mas não come na cabana carioca, Dudu, que vai pesar mais 10 quilos.
Olha, depois já viu, né?
Olha aí,
gestão dá certo.
Écoutez, bande originale organisée. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Loïc du disquaire Bazar Musique.
Et le plaisir est partagé.
Le plaisir est partagé. Il est venu nous parler d'un genre musical qui lui tient à cœur, les westerns italiens, en signant une selecta qui fait revivre tout cet héritage musical des westerns italiens à travers des groupes du monde entier. Et on vient de s'écouter une reprise signée John Zorn.
Ouais, alors je sais pas si c'est une reprise de un morceau ou de plein de morceaux de Morricone en même temps. C'est un album qui s'appelle The Big Gun Down, donc on est en train de se dire. C'est le titre de, original de Wangley de Colorado de Sergio Solima. Et voilà, un album d'avant-garde, de jazz. Ben, John Zorn, c'est un New Yorkais qui est à la frontière de plein de choses entre le rock, le jazz et l'avant-garde. Et qui a le mérite de nous rappeler que Morricone a fait et a même commencé dans la musique concrète, la musique d'avant-garde, la musique expérimentale, qui faisait pas mal de choses à côté, que toute l'intro d'Une fois dans l'Ouest, c'est un montage de sons qui compose à base de, voilà, à base de sons préexistants, qui s'amuse avec des sons de chacal, de la beauté de truand. Qui...
Il est très connu pour ça. Effectivement, tu parlais de ces sons de musique concrète, les gouing, les petits trucs comme ça, alors je l'imite très mal. Mais c'est des sonorités qui viennent un peu rythmer les compositions de Morricone.
Ouais, c'est ça. Il fait toujours un apport de musique expérimentale dans de la pop musique. Enfin, ce qui va devenir de la pop musique, parce que bon, au départ, c'est pas le projet, quoi. Mais finalement, la musique de Morricone, elle devient de la pop musique. Elle influence la pop musique à son tour. Donc voilà, ce projet de John Zorn de 86 nous mettait un petit peu dans le bain, je pense. Et bah, j'incite les auditeurs à aller écouter les choses bizarroïdes et de Morricone, même si c'est pas toujours évident. Mais Il avait son groupe d'improvisation, dont j'ai oublié le nom. Acronyme, groupe d'improvisation, G-U-N-I, je ne sais plus quoi. Mais ça se trouve, il faisait aussi des musiques d'illustration. Enfin bref, voilà, il y a de toute façon un gros corpus Morricone, hein, plus de 300 disques, etc. Donc on fait pas le tour en 5 secondes.
On peut aller fouiller, ouais. Mais le western italien, toi, tu as bossé dessus, notamment tu as bossé sur Sergio Leone. C'est quoi ton premier souvenir de western italien ?
Ben, c'est d'avoir vu à la télé, je pense sur M6 à l'époque, parce que c'était une galère de choper M6 là où j'étais à l'époque. Et c'était Le Bon, la Beau et le Truand en version française sur la télévision avec mes frangins. Et très bon souvenir. Très bon souvenir de rigolade. J'ai le souvenir de la scène où les soldats sudistes arrivent et s'époussièrent et on voit qu'ils sont des soldats nordistes. Je me souviens très bien de cette scène. Je me souviens que il y avait plein de trucs marrants. En même temps, c'était un peu transgressif, un peu violent, mais bon, pas non plus tant que ça pour un spectateur de la fin des années 80. Mais quelque chose qui m'a tout de suite plu, quoi. Et puis la musique, évidemment, ça participe énormément. Mais...
Parce que ça, c'était à la fin des années 80.
Bah ouais, je suis gamin, j'ai 10 ans.
Et donc c'est un moment où le western italien, ça reste très niche encore, ça reste très confidentiel, ça reste encore sulfureux.
Je sais pas. Je sais qu'un peu plus tard, dans les années milieu des 90, à la Téloge, t'avais sur M6 l'été, il les passait tous les ans. Sauf pour une boîte de dollars et l'Amérique, parce qu'il y avait des trucs de droit, mais les 4 au milieu passaient en permanence. Enfin, passaient les uns après les autres.
Et donc de cela, le premier c'était Le Bon, la Brute et le Truand. Mais après, de tous les 450 films, à peu près, ça c'est grosso modo.
Ah, des westerns italiens en général, apparemment. Ça passait pas à la télé. Moi je te parle que des Leone.
Ah oui, d'accord. Ok, c'est que les Leone qui passent à la télé.
Pour quelques d'heures de plus, Le Bon, la Brute et le Truand, il était une fois dans l'Ouest, une fois la Révolution. Ça passait un moment quasiment tous les étés sur la 3 en version française. Et voilà.
Mais donc de ce genre cinématographique qui a inondé les écrans entre 63 et 78, c'est plus ou moins les dates, c'est les 15 ans.
Bah, 78, t'es large, à mon avis. Ouais. Ça s'écroule plutôt 74 ou quelque chose comme ça. Non,
ouais, je pense que entre 74 et 78, il doit y en avoir quelques-uns qui ne font pas partie des meilleurs.
Ouais. Bah, la première période du western italien, la première moitié, c'est sous l'inflexion de Leone, c'est le western de vengeance assez sérieux. Et puis il y a le basculement avec Terence Hill où ça devient de la pantalonnade. Qui passait aussi pas mal à la télé, évidemment, les Terence Hill, mais ça, c'est une autre approche. Et puis, encore deux, trois trucs crépusculaires un peu sérieux qui débarquent à la fin. Des mélanges avec le kung-fu, des mélanges avec les films d'horreur, des mélanges avec... que sais-je, il y avait des coproductions avec la Shaw Brothers, quoi, donc avec Hong Kong.
La Shaw Brothers qui a produit des westerns.
Ouais, ils ont fait des coproductions, il y a la boîte, le colt et le karaté, Mon Nom est Shanghai Joe, c'est des trucs vraiment très, très bis. Ouais. Lee Van Cleef dans la boîte, le colt et le karaté... Oui, coproduction Shaw Brothers. Et puis bon, je sais plus, il y avait des influences aussi de films d'horreur, de films gothiques, il y a plein de trucs en fait dans cette période italienne.
Ouais, ça mélange plein de choses. Mais donc toi, si tu devais en retenir deux ou trois pour donner envie à nos auditeurs.
Hors Sergio Leone, j'ai retenu quoi ? J'ai retenu les Sergio Solima, les Sergio Corbucci.
Tu m'avais dit en off que Sergio Corbucci n'avait pas complètement été faveur.
Si, Le Grand Silence, Django, je pense que ça a marqué les esprits, notamment chez les Japonais. Je trouve pas que ça soit extrêmement bien, bien réalisé, mais bon, après, c'est perso. Les Solima avec la trilogie avec Thomas Milian.
Bien sûr, oui.
Colorado, dernier face-à-face. Et,
le dernier, c'est lequel ? Je m'échappe.
Cuccio, je sais plus, il y a le personnage de Cuccio. Mais...
Quelque chose comme ça. Bref, ça va me revenir.
Et donc, effectivement... y en a des bons avec Lee Van Cleef. Qu'est-ce qu'il y avait de bien ? Moi, j'aime bien Le Retour de Ringo, c'est une sorte de version d'Ulysse au Mexique. Ça m'avait plutôt plu. Après, il y a des bonnes raisons de les regarder, c'est la musique. Il n'y a, pas que Morricone qui a fait des bonnes musiques de western italien.
Il y a Luis Bacalov aussi.
Luis Bacalov, puis tout un tas d'autres, parce que la scène italienne, c'était quand même assez fourni.
Et on s'écoute un autre morceau ?
Allez, vas-y.
Celui que tu as teasé tout à l'heure, les Upsetters et leur Dollar in the Teeth. Allez, vous écoutez Bande Originale Organisée, on est ensemble. D'un dollar dans les dents. On est ensemble en live jusqu'à 13h30. À tout de suite, après la musique.
Policier italien de Sergio Leone, et je n'ai pas vu ça, il paraît que c'est très bien, le bon, la brute, le truand.
C'est un western.
C'est un western. C'est vraiment très très bien, Marc
non.
Abreu.
Non.
Non, Marc Abreu, dit que
c'est insignifiant, je crois qu'il n'y a vraiment rien à en dire.
Mais moi, c'est ce que je pensais, mais Jean-Louis m'a dit c'est formidable.
Alors. Mais alors, toujours au troisième, au quatrième, au cinquième degré.
Oh, c'est vraiment au premier degré.
C'est le degré Bory. Bon, pour Aubryan.
Non, mais non. Moi j'aime le vrai western, c'est-à-dire le western chevaleresque où il y a un bon qui venge sa fiancée outragée ou son meilleur copain ou alors sa jument. Et là il y a uniquement des salopards, bon, puis des salopards qui se jouent des tours pendables. Il y a un côté paroxystique et effectivement notre ami Bory est très touché par le côté paroxystique déjà des Pâtres du désordre. C'est peut-être la raison pour laquelle il aimait aussi le film de Sergio Leone, mais finalement on a l'impression que c'est un pot pourri des situations, non pas du western américain, mais du western ersatz italien. C'est-à-dire que, bon, le film part dans 40 directions à la fois, il dure 3 heures, il pourrait durer 10 heures, il pourrait durer une semaine, il pourrait durer une semaine, il pourrait durer un mois, quoi, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, il n'y a pas de raison que ça commence non plus. Alors là, il y a effectivement, pour être tous morts, il y a au moins un millier de cadavres. Dès qu'un type sort son pistolet, il descend 20 personnes, quoi. Oui.
Et c'est alors, tourné en Espagne,
c'est tourné en Espagne. Moi, j'aime que le paysage ait du talent. Et pour une fois, le paysage n'a aucun talent. On respire pas vraiment le souffle épique du western. Puis alors, je sais pas, la parodie me gêne beaucoup dans des genres nobles. Il y a un côté Virgile travesti, quoi. Il y a une espèce de côté méprisant, et puis surtout dans le film, on sent chez Léon un immense mépris de ses personnages et un immense mépris de l'homme. Et je ne crois pas qu'on construit une œuvre belle ni une œuvre excellente si on méprise tellement ses personnages et si on méprise l'homme en général. Et ça m'a laissé sur une impression de gêne profonde, outre que je trouve le film assez ennuyeux, de gêne profonde et d'immense désarroi, quoi. J'ai l'impression que c'est un genre, puisqu'il va en Amérique faire du western, il va apprendre maintenant à monsieur John Ford et à monsieur Raoul Walsh et à monsieur Howard Hawks comment on fait un western. J'ai l'impression que c'est un genre qui est en pleine décadence à cause de ça. Enfin, c'est...
Bien, merci Michel Aubry.
Un assassinat en bonne et due forme, celui du masque et la plume qui atomise le bon, la brute et le truand à sa sortie en 1968. Loïc, mon invité de la journée, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet extrait que tu as choisi de nous partager ?
Non, bah, c'est représentatif parce que je crois que la presse, moi j'avais lu, j'étais allé chercher tous les articles de presse en France pour mon boulot de mémoire, et donc c'est négatif jusqu'à Le Bon, la beauté de truand est une fois dans l'Ouest. Alors, c'est à partir de là que ça commence un peu, il commence un peu à y avoir des voix, genre au cahier du cinéma positif, commence à se retourner. Mais au début, les Français, ils sont hyper choqués de voir qu'il y a un western. Qui prend le contre-pied du western américain. Enfin, on touche à leur cinéphilie profonde, tous ces gars d'après-guerre, en fait, en général, qui ont bouffé plein de films américains après la guerre, sont complètement déboussolés, ça les peine vraiment. Ouais. Et notamment, vraiment, les Français, quoi. Et en Italie, en même temps, c'est un énorme succès qui finit par arriver ici, qui finit par arriver en France. Et puis dans plein de pays, ce qu'on va voir tout à l'heure avec la musique, juste avant, on a écouté un morceau jamaïcain.
Ouais.
Et donc, je pense que dans les pays dits du tiers-monde, à ce moment-là, en fait, finalement, ces westerns, comme ils prennent le contrôle, ils critiquent les États-Unis, il y a un peu la même dimension qu'avec Bruce Lee. Bruce Lee, c'est l'asiatique qui pète la gueule au blanc.
Ouais.
Et bien, dans le western américain, quand on prend le contre-pied et qu'on commence à avoir plutôt des personnages côté mexicain et tout ça, tout ce qu'on voit dans les westerns italiens et qui démolissent un peu la mythologie américaine, ça plaît énormément, par contre.
Mais c'est aussi...
En France, il y a un truc où il ne faut pas toucher à ce cinéma-là américain, qui pourtant n'est pas toujours si chevaleresque comme le mec a l'air de le dire. Hein. Tu prends des trucs des années 50, les personnages ne sont pas si sympathiques que ça chez Anthony Mann et chez Bud Boetticoeur, en fait. Juste, bon, effectivement, Clint Eastwood, il dégaine plus vite, quoi.
Ouais.
Il flingue quatre gars.
ça
il y a côté graphique, en fait, qui arrive et qui est plus du tout dans le même rapport.
Ça se joue à quoi, la différence, pour toi, entre un western américain et italien ?
Ben, y a ce truc graphique, opératique, la présence de la musique de Morricone, que bon, ça c'est un truc, je pense, qui est un peu repris par tout le monde derrière Léon. Il y a les personnages plus... Alors, les grands clichés, c'est les personnages dépenaillés, les mecs mal rasés, les mecs typés mexicains, machin, on prend le contre-pied du cow-boy blanc, habillé en blanc et tout ça. Il y a... Il n'y a pas de femmes pratiquement, généralement. On se prend pas c'est pas tellement la question de la civilisation, parce que dans le western américain, souvent, c'est la question de comment on rétablit l'ordre et qu'on met un shérif et que finalement, on enferme les méchants. C'est souvent ça, mais c'est pas que ça. Et dans les films italiens, en fait, c'est beaucoup plus un truc de film noir. Pour une poignée de dollars, c'est une société corrompue et on va faire le ménage.
Ouais.
C'est pas tout à fait pareil que il y a des troubles faits et on va les dégommer afin de rétablir l'ordre.
Dans les westerns italiens, il y a des protagonistes qui veulent profiter d'un monde pourri d'une certaine manière, alors que dans le western américain, il y a presque la volonté de changer le monde et de montrer comment des personnages qui sont déjà sombres, hein, comme celui de John Wayne, ceux interprétés par John Wayne, comment en fait ils sont rendus périmés en fait par l'évolution de la société. Non, toi, tu vois les choses comme ça?
Oui, voilà, il y a des films où c'est ça aux États-Unis. Après, il y a vraiment aussi tout un panel. Hein, mais si on veut, je dirais, il y a un optimisme dans les films de John Ford et dans les films américains en général. Et il y a des choses à laquelle faut pas toucher. En fait, c'est vrai que je lisais quelque part, les États-Unis, chez les Américains, il y a une forme d'optimisme à laquelle il faut pas toucher. Oui, les Italiens, ils ont un regard... mais en fait, le regard de Léon, je pense que c'est un regard d'amoureux du western, mais qui a envie de le travestir et qui a envie de le faire avancer, qui a envie de jouer avec les codes et de jouer avec le mythe, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est considéré comme des films de bascule d'une époque plus moderne. On racontait ça un peu tout à l'heure. Notamment par Tarantino, c'est des films qui critiquent le cinéma. C'est des films qui se base déjà sur du cinéma. C'est-à-dire on fait pas une histoire à partir de rien, on fait une histoire à partir de tous les films qu'il y a eu avant, et on joue avec, quoi. On joue avec ce décor, on joue avec ces mythes.
Et puis aussi, le mythe du western devient pour le cinéma italien une manière de discuter le contexte, celui d'un fascisme encore saignant en Italie. Et en fait, comment ça devient ça un livre ouvert qui permet de projeter des réalités beaucoup plus sociales et économiques de l'Italie.
Oui, il y a ça, il y a la critique aussi de l'interventionnisme américain en Amérique du Sud,
sûr,
dans les films sur le Mexique, sur la révolution mexicaine, etc.
Ouais. Donc c'est un courant passionnant, et peut-être qu'on peut s'écouter un autre morceau. Alors celui-là, c'est le morceau thaïlandais, Ying Ting, chanté par un chanteur qui s'appelle Preamdan. Vous allez voir, c'est un cool morceau. Alors restez avec nous. Après, on enchaîne sur un morceau bien de chez nous. Restez connectés sur les ondes de Radio Galère. C'est bande originale organisée jusqu'à 13h30.
จะเจอกับลูกปืนคนตัวลื่นมาหลอกจันเซทลาคนแบบนี้ถ้าเจอจะลาขอมายิงแสกหน้าเสียให้ลูกตากระเด็นคนหลอกลวงต้องยิงให้สวงอกรุนทำฉันวุ่นแล้วเธออย่ามาให้เห็นคนใจร้ายต้องยิงให้ตายทั้งเป็นยิงให้เหม็นด้วยปืนอากาศคาบายคนกรอกลิงต้องยิงด้วยรีวอลเวอร์เอาคอนซูเปอร์มายิงตัดหัวใจเอา M16 ยิงถลกหนังหัวเป็นไงอยู่ทำไมคนลายใจถ่ายเทเมื่อไรต้องยิงให้ตายทันทีคนไม่ดีรักกันแล้วจ้างห่างเหยิงเผาคนแล้วเอาศพโยนทะเลคนรอยเล่รักกันไม่จริงยิงทิ้งซะเลยต้องยิงด้วยรีวอลเวอร์เอาคอนซูเปอร์มายิงตัดหัวใจเอา M16 ยิงถลกหนังหัวเป็นไงอยู่ทำไมคนลายใจถ่ายเทพบเมื่อไรต้องยิงให้ตายทันทีคนไม่ดีรักกันแล้วจ้างห่างเองยิงเผาคนแล้วเอาศพโยนทะเลคนรอยเล่รักกันไม่จริงยิงทิ้งซะเลย
We'll be right back. Je suis un créancier très patient. Quand l'échéance est venue, je me fais payer quoi qu'il arrive.
Sentenza. 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 Sentenza.
Merde, je compte mon vécu comme une pluie de coups. Enfance prise de cours, un de ces jours où ma mère n'avait plus de sous. Mon rap né dans la dèche, flèche dans la fraîche poulet. Je me suis juré d'être Prince Palerche. J'en veux au monde entier, un temps qui marche sur mon sentier. Enfanté dans l'amour, mes sentiments sont confus. Conflux dans le lit de mes rêves d'une pièce exiguë. Ma salive est empoisonnée, mes larmes sont de la ciguë. Le ventre vide a poussé quelques notes familicores de mon lexique. J'évoque une existence pathétique. 10 balles en poche par mois, dis-moi c'est ridicule. Tout comme t'as fait comme un kleps pour un boss qui t'encule. Je dépeins les bons moments, les mauvais moments. Comment faire autrement sinon mater l'avenir par un dormant. Endormi par la lassitude amère, ses sons sombres. Habitué à vivre l'échec, mon verbe est sombre. Petit poussé dans la jungle des ogres. Arborant kéfié, jean, basket, bagage, sac de mots tu méfiais. Méfie-toi la mauvaise carte, quête à chaque coin de rue. Jette un regard sur le passé, connais, comprends ton avenir. Tu comptes sur les autres, tu sèmes cacahuètes. C'est déjà si dur de grandir au far west. À l'ouest, rien de nouveau, sinon ma face de rat dans le clip. Je pète toujours pareil dans mon slip, comprends-moi bien. Pousse au milieu des cactus, ma rancœur. Au milieu des cactus, ma rancœur.
Non, je cherche quelqu'un, je le trouve toujours. Regarde-moi ce cochon de Sentenza. Lui, au moins, il a su se placer. Tout de même, il n'aurait pas oublié les copains. T'en fais pas, je ne les oublie pas, les copains. Surtout quand les amis viennent de si loin et qu'ils ont tant de choses à me raconter.
Tant de raisons de vivre vite, je sais c'est pas une excuse, mais les tentations fusent. Fusil dans le coffre, j'offre ma jeunesse à la légende, pas celle des livres, mais celle des blocs. Scanne un verset pour mes potes dans le no man's land. Les frères en va où, elles sont loin, les petites couchées dans les champs de Spigao. Là de part frappe et moi je fais le bar de Tchoubarge. Chasse de ma mémoire, tant de flash hard. La pitié maker, je me reconnais plus dans mes actes. C'est pas la faute à l'autre ou à l'autre. Mec, je jacte dans mon dialecte sans toucher ni tact. Chile nada, du premier texte ma pierre, je déclenche une intifada. Simple personne, je fais confiance à personne. Cherche pas la star dans ma face, mon nom est personne. Appelle-moi Paesano si ça te chante. Mange-toi si ça te tente. Bave sur mon nom si ça te hante. Idiot, les équivoques débutèrent ainsi. De simples malentendus en absence. On s'étonnait de plus me voir dans la rue. Mais j'étais chez moi, à bosser les rythmes, les rimes, les mélodies. L'amour allait toujours vers mes amis. C'est trop quand la vie est ainsi faite. Dire qu'ils n'ont jamais su que c'était à eux que je pensais quand j'écrivais. Aujourd'hui je vois les potes qui ont compris. Ceux qui flippent, ils sont partis, la bouche pleine, criant que l'argent m'avait changé. Plein de préjugés, je crois qu'ils voulaient vraiment se venger. Les choses changent et ne peuvent plus s'arranger. Et tes propres frères deviennent étrangers, comme ça. Tous au milieu des cactus, ma rancœur.
Je finis toujours le travail pour lequel.
Tous au milieu des cactus, ma rancœur.
Voilà les 500 dollars qui te reviennent. Mais l'ennui, c'est que moi, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Mais l'ennui, c'est que moi, je finis toujours le travail pour lequel on me paie.
Hey yo yo yo, vous l'avez reconnu bien sûr, Kéops du groupe I Am qui a livré ici une compilation de son travail avec des reprises notamment
avec
de western.
Avec Akhenaton au chant quand même.
Avec Akhenaton au chant, bien sûr. Mais dans cette compil, il fait aussi Mobilize Hill des X-Men. C'est une compilation où il invite plein de rappeurs.
Ça, c'était un double CD, le Kéops, qui à l'époque, il y avait un morceau avec I Am au complet. un morceau avec Akhenaton, et puis l'invité Oxmo, les X-Men et tout un tas de gens.
Et vous avez reconnu bien sûr dans le morceau le sample d'une scène iconique de Le Bon, la Brute et le Truand, celle où il y a Sentenza, qui est joué par Lee Van Cleef, qui en tant que bon créancier vient chercher son dû dans une, auprès d'un, je sais pas si c'est un paysan. Oui, on en parlait de cette scène.
C'est la première scène du film, mais je t'avoue que j'ai oublié les détails. Oui, bah, il est payé par deux gars en même temps. Donc le gars lui dit ah, bah, je te donne de l'argent pour que tu me tues pas. Donc Sentenza prend la thune et après il lui dit bah, moi je finis toujours le boulot pour lequel j'ai été payé. Donc
il le tue.
Il prend l'argent et il tue le deuxième commanditaire qui est aussi la victime du premier commanditaire. c'est ça qui se passe. Donc un personnage très sympathique.
Ouais, c'est Lee Van Cleef.
Lee Van Cleef dans Le Bon, la Beauté et le Truand.
Lee Van Cleef qui apparaîtra dans plein d'autres
postes. Il meurt quand même à la fin du film, comme disait Léon. Bon, on est quand même un peu obligé de le faire mourir à la fin, faut pas déconner. Qu'il est tellement noir.
Ouais. Ouais, c'est un bon gros connard dans ce film-là. Notamment une scène de torture aussi, où il torture Eli Wallach pour récupérer les coordonnées du trésor que tout le monde recherche, ce foutu trésor. Mais oui, Sergio Leone, on y revient. Toi, tu es un fin connaisseur, nous l'avons dit en introduction, et tu as bossé dans tes recherches académiques, non pas sur un western, mais sur Il était une fois en Amérique.
Ouais, j'avais fait mon mémoire à la fac sur Il était une fois en Amérique. Et donc, il n'est pas un western, c'est son film de gangster qui fait donc en 84 et qui est en fait son septième film officiellement, parce qu'il y a le Peplum, le Colosse de Rhodes, et après il y aura quatre westerns, et une fois la Révolution qui est un demi-western, je sais pas, pour moi c'est un western. Mais... Et celui-là, à la fin, et je sais pas où tu me pousses à me dire, à faire dire oui. Bah moi je trouve que c'est un réalisateur qui est intéressant parce qu'il est extrêmement cohérent en fait, et il va faire peu de films hein, franchement pour quelqu'un qui est aujourd'hui hyper célébré. On a passé le masque et la plume pour faire comprendre à quel point à l'époque tout le monde dit que c'est de la dope, mais qu'aujourd'hui c'est devenu, c'est d'ailleurs les seuls westerns qui ont bien vieilli en réalité. Si on demande à des personnes de moins de 35 ans aujourd'hui, quel western ils ont vu, ça va pas aller loin. En général, on a une image très cliché des scénarios de western classiques. Et finalement, c'est des films qui ont 60 ans, pour une poignée de dollars aujourd'hui, cette année. Et dans l'histoire du cinéma, on voit peu de films qui ont finalement vieilli aussi bien auprès, je dirais, du grand public. Quoi. Enfin, des gens, grand public peut-être pas, mais des gens qui s'intéressent un petit peu au cinéma. À part les Star Wars, je ne sais pas. Et bon, tout en restant dans une cinématographie un peu occidentale, hein, mais bon. Aux États-Unis, ils ont Le Magicien d'Oz, ils ont d'autres critères de trucs comme ça qu'apparemment tout le monde a vu, ou Casablanca. En France, franchement, des gens qui ont vu des films en noir et blanc, il n'y en a malheureusement pas tant que ça aujourd'hui. Mais en tout cas, je trouve que les films de Léon ont vieilli, c'est là qu'on voit qu'ils se sont trompés. Alors moi, je vois sa filmographie, les six films en tout cas qu'il fait à la fin, la trilogie du dollar, la trilogie d'une fois, comme un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire qu'en fait, chaque film améliore le précédent et l'intègre et va plus loin. Par exemple, voilà, dans la trilogie du dollar, on a Clint Eastwood, après on va avoir un deuxième personnage, Lee Van Cleef, dans le troisième, on va avoir trois personnages, et le film part d'autres choses, mais... Il y a un côté comme ça où ça cannibalise le film précédent, ça capitalise évidemment sur le succès du film précédent, et puis on essaie de pousser le processus un peu plus loin, et donc une fois dans l'Ouest, c'est une grosse abstraction, on essaye d'aller au bout du western complètement. Alors après ça c'est un petit peu moins clair avec la Révolution, puis l'Amérique, il va reprendre comme ça énormément de scènes qu'il a déjà faites, même dans la Révolution il reprend des scènes qu'il a déjà faites, il fait exploser un pont comme dans Le Bord de la Boule des Truands, et dans l'Amérique il y a un peu ce même procédé. Alors tu disais oui c'est un western non, et un faux western, alors oui je suis un peu mais je pense que dès le départ il y avait aussi une influence vu que lui aussi c'est un mec de l'après-guerre hein, dans ce qu'on disait tout à l'heure justement, il a exactement la même culture que ces mecs en France plus ou moins, c'est que ils ont bouffé plein de films américains, en fait, en Italie, à la fin du fascisme. D'un coup, il y a les vannes qui s'ouvrent, il y a tous les films noirs qui débarquent en Italie, il y a tous les BD, les comics, donc ça va donner les fumetti italiens. D'ailleurs, il y a une bande dessinée western qui est hyper connue, qui s'appelle Tex, qui existe toujours. Et toute cette culture, finalement, Léon et ses contemporains, ils vont tellement la bouffer en quelques années, les films noirs des années 40, les westerns des années 50... que c'est quelque chose qu'ils vont digérer extrêmement bien. Mmh. Et donc, en fait, c'est vrai que le cinéma, pas le cinéma d'auteur italien, pas celui de Fellini, pas celui d'Antonioni et tout ça, mais le cinéma de Leone, de Corbucci, le cinéma de genre, le cinéma des filons, va être une réponse toujours aux États-Unis. Quoi. C'est assez clair. Avec aussi à la Hammer, il s'inspire des films anglais.
Bien sûr, ouais.
Et il mâche et il retravaille le truc. Quoi.
Mais c'est ce qui rend tous ces films-là extrêmement cohérents. Parce que c'est vrai que tu parlais d'une dimension très... Très graphique dans les westerns tout à l'heure, et ça tient beaucoup de Mario Bava notamment, de ses giallo. Je trouve qu'il y a une vraie continuité à trouver dans tout le cinéma italien de ces années de 60 à 70, début 80. Mais en tout cas, c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur les poupées russes entre les trois Il était une fois, parce que ça paraît être une vraie rupture, Il était une fois en Amérique. Ça mobilise ne serait-ce qu'un autre terrain visuel, avec
un autre genre cinématographique
avec des décors qui sont beaucoup plus austères, beaucoup moins lumineux en fait, comme le reste des films qui s'appuient beaucoup plus sur l'atmosphère et sur l'ambiance du désert. Là, c'est vraiment un shift, ne serait-ce que graphique, dans la carrière de Sergio Leone.
En même temps, si on compare à d'autres réalisateurs, il a été beaucoup plus monomaniaque. Il a été un petit peu forcé aussi par les producteurs qui voulaient qu'il répète ses succès et tout ça. Hein, mais déjà, c'est quelqu'un qui n'a jamais filmé au présent. Il a toujours filmé le passé. Alors, il se rapproche petit à petit. Et il finit en 68 dans l'été du Fort d'Amérique, finalement, parce que le film se passe entre les années 20, 30, 60. Mais il n'atteint jamais réellement le présent de la réalisation au moment où il fait des films. Quoi. Mais...
Est-ce qu'il bosse avec Morricone sur Il était une fois en Amérique encore ?
Tout le temps. En fait, il va améliorer son équipe au fur et à mesure. C'est-à-dire que je crois que le monteur qui va rester jusqu'à la fin, il rentre à partir du troisième, quatrième film. Le chef opérateur Tonino Dell'Icoli commence dès le deuxième. Le Morricone, il commence dès le premier, il fait les six derniers, et ainsi de suite. Donc en fait, il finit par avoir la meilleure équipe en gros du cinéma de genre italien. Ça, c'est... un peu indéniable. Il y a le monteur, c'est Nino Baralli, le décorateur Carlo Simi, comment sur le troisième ou quatrième aussi.
Parce qu'après, il change de dimension.
La musique de Morricone est toujours diffusée avant les tournages, à partir du Bon Labo et le Truand. Et donc, en fait, les acteurs jouent sur la musique.
Donc, ça veut dire que Morricone, il écrivait les chansons avant même que le tournage débute ?
Ouais.
Ah oui, ok.
Le Bon Labo et le Truand. Et sur Une fois en Amérique, la BO, elle est faite 12 ans avant, puisque le film a mis tout ce temps-là à être produit.
Donc Morricone, il compose sur la base d'un pitch que lui fait Sergio Leone, et puis après c'est les intentions d'image qui nourrissent la musique, qui vient elle-même à son tour nourrir la création d'image.
Leone disait c'est mon premier scénariste.
Ah cool.
Et bon, je pense que Morricone était évidemment flatté, même si c'est une relation où Leone il l'a empêché d'aller voir Kubrick, il l'a empêché d'aller voir d'autres grands réalisateurs. Il voulait que ça reste, même si Morricone faisait beaucoup de BO à côté. Mais ce rapport-là où lui, là, en fait, sa musique, ça devient du vidéoclip, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de dialogue chez Leone. On laisse la place, quoi. Il n'y a pas de dialogue par-dessus la musique, c'est rare. Ça, Morricone, il ne l'avait que là. Donc, je pense que ça le satisfaisait et que c'était une relation qui se nourrissait. Chacun se nourrissait l'autre, quoi.
Mais c'est vrai que c'est une musique qui est très... qui est très universel, mais dans un sens très cinématographique. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir fait voyager cette musique à travers le monde entier, de voir comment ça a pu y avoir des reprises aux États-Unis en mode reggae, des reprises chinoises, thaïlandaises. C'est une musique que tous les pays, que toutes les cultures, que toutes les affinités ont pu s'approprier pour les remoderniser ou pour les transformer. Est-ce que toi, tu sens ça les choses comme ça quand tu écoutes de la musique de Morricone ?
Je sais pas du tout, j'ai pas le regard de quelqu'un à l'autre bout du monde. Ce qu'il y a, c'est que je pense que en termes de musique de film, c'est vraiment un gros succès de box-office. C'est un mec qui a vendu vraiment beaucoup de disques,
ce qui se
faisait rarement avant dans la musique de film. La musique de film devait rester dans les films. Il y a des contre-exemples. Il y a la musique du Troisième Homme, c'est un gros succès. Il y a des tubes où il y a des chansons dans des films américains qui deviennent des tubes, mais... Une BO comme Une fois dans l'Ouest qui va se vendre à des milliers d'exemplaires, c'est pas le cas avec des musiques, en tout cas des musiques de western américains qui sont très poète quand même. Puis lui, je pense qu'il avait une énorme culture, et venant de la musique qu'on disait concrète, contemporaine, il utilise des instruments, des guimbardes siciliennes. Bon, ça te fait dire c'est très italien, mais je pense qu'il avait quand même ouais, un sens. Clairement, il a un sens de la composition.
Ah, bah, ça c'est clair. Je peux te noter qu'il a vendu.
Force l'admiration.
Il a vendu 70 millions de disques dans le monde.
Et là, ce que j'écoutais hier des émissions sur Radio France et tout ça qui parlaient des influences de Morricone. Par exemple, je le dis, une fois dans l'Ouest, il a influencé la scène heavy metal, les mecs comme Metallica qui mettaient toujours.
The Ecstasy of Gold.
The Ecstasy of Gold, le bon, la beauté, le truand, à la fin, au début de leur concert. Il y a le mec des Luminanas qui disait, ouais, nous on cherchait ce son-là de guitare un peu surf qu'il y a dans. Une fois dans l'Ouest. Donc en fait, on a passé, nous, des reprises jamaïcaines, thaïlandaises et tout. Alors, c'est plutôt la trilogie des dollars qui est repris par dans les pays en Caraïbes, en Asie et tout ça. Et par contre, une fois dans l'Ouest, ça va avoir une influence plutôt dans le rock.
Ouais.
C'est à ce côté, l'apport de la bizarre de la guitare électrique là, qui l'amène dans ce paysage sonore plutôt orchestral. Et voilà, bizarrement, hop, grosse influence sur le rock, le hard rock, enfin le heavy, tout ça.
Et on continue notre tour du monde en 45 tours de musique inspirée par Ennio Morricone. Et nous allons cette fois en Chine, si je me souviens bien. Hong Kong, Man Chan Po Orchestra.
Hong Kong, on a d'ailleurs des références à Léon dans le cinéma de Souillarc, beaucoup aussi.
Oui, bien sûr.
Début des années 80, comme Django va influencer les Japonais. Voilà.
Ouais. Allez, on écoute ça tout de suite. On est ensemble jusqu'à 13h30. Restez connectés. nous sommes à court de temps, les amis. On doit malheureusement faire l'injure d'écourter un petit peu ce morceau légendaire. C'est Babe Ruth.
The Mexican,
un morceau qui a été breakdancé dans tous les sens, tu me disais en off.
Bah apparemment oui, gros morceau dans la culture hip-hop des premiers temps, début des années 80, avec un morceau qui était beaucoup dansé. Alors je sais pas si c'est exactement le breakdance, mais je ne suis pas spécialiste. Donc,
tu ne fais pas du breakdance?
Je ne fais plus, non, j'en ai jamais fait d'ailleurs. Et là on entend bien que c'est une reprise de Point Dollar. C'est un groupe anglais, donc Babe Ruth. Mais malheureusement pour moi, on va dire le seul bon morceau, je crois. Mais quel morceau?
Ouais.
On peut finir avec présenter le dernier morceau?
Ouais, bien sûr. Mais déjà, avant de finir, je vais te remercier bien fort, Loïc.
Bah, de rien.
D'être venu partager cette sélecta incroyable. On s'est écouté des morceaux, si nous avait récupéré en route, qui revisitaient l'héritage du western italien, l'héritage de Morricone, l'héritage de Sergio Leone, de plein de continents différents. On a été en Asie, on a été aux États-Unis, on a été au UK, comme là actuellement.
En Jamaïque.
Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission si vous voulez la rattraper, si vous voulez la récupérer, sur le site de Radio Galera, la page de bande originale organisée. Je vous rappelle que Loïc tient le disquaire du 5 Boulevard Chave Bazar Musique. Je lui ai demandé en off de me sortir un disque qu'il venait de rentrer dont il était fier, mais il m'a dit qu'il y en avait trop, que c'était impossible de choisir. Donc allez-y par vous-même, allez jeter un œil et des oreilles. Vous allez voir, c'est une sélection unique à Marseille. Peut-on le dire ?
C'est à toi de le dire, c'est pas moi.
Eh ben moi je le dis. Peut-être qu'on peut suivre ta son Bazar Musique sur Instagram.
Yes.
C'est là-dessus que tu mets en avant les soirées où tu mixes
Oui, occasionnellement. Après, je te dis, moi je suis plus vraiment DJ. Hein. J'ai un peu raccroché les.
T'as raccroché les crampons
Oui, les crampons, c'est ça, on dit comme ça, ouais.
Bon, on dit comme ça pour le foot, on va dire pareil pour la musique. Et tu voulais dire quelques mots du dernier morceau.
Le dernier morceau, c'est pas du Morricone, c'est la BO de Pandele Haut et Court, qui est une sorte de western spaghetti, mais à l'américaine, avec Clint Eastwood. C'est une musique de Dominic Frontier, je ne sais pas comment on dit, je crois que c'est son seul truc connu, En Game High. Et repris, qui a été un gros succès, alors ça c'est une version sud-africaine, mais qui a été un gros succès par Booker T and the MGs, pour ceux qui connaissent. Ouais, je crois qu'on va avoir
écouter. Allez, on vous laisse les amis, à bientôt. Merci, un grand merci Loïc, pour ta présence, pour ta selecta et pour tout ça. Et à très bientôt peut-être.
À bientôt.
Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.
Radio Galère, 88.4 FM, 04 91 08 28 10. Là où le premier alphabet a été diffusé au monde entier.